Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Parfois, on lance une idée de thématique et c'est une autre qui s'offre à nous. Lorsque Claire Sexologue nous a écrit son point de vue sans fioriture ni artifice sur les différentes facettes de son métier, a immédiatement retenu notre attention. On a eu envie de comprendre ce que ça représente réellement d'être sexologue de nos jours. D'explorer les réalités beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît de cette profession, en abordant aussi bien les aspects positifs que les défis délicats auxquels il faut parfois faire face. Salut Claire.
Bonjour.
Sympa cette petite intro.
Ah ouais, je suis émue déjà.
Merci d'être venue partager un peu de ton quotidien dans le podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je suis sexologue et thérapeute de couple et je travaille à la fois en structure publique puisque je travaille à l'hôpital et en libéral puisque j'ai aussi un cabinet.
Ok.
Ça, c'est pour les deux grosses activités. Après, je fais aussi plein d'autres trucs, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler.
Très bien, on en parlera peut-être après. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi ?
Que je suis plutôt joyeuse, quand même un peu dynamique, que je suis très à l'écoute et que je suis peut-être très impatiente aussi.
Ok.
Ouais.
Ok, très bien.
Pas réfléchie, spontanée comme ça.
Non, mais c'est bien, voilà. T'as raison. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi ?
Une plage.
Ouais.
Une plage parce que le bruit des vagues est quelque chose qui me calme et qui me fait du bien.
Ok.
Parce que j'aime bien l'idée de pouvoir me baigner quand je veux.
Ok.
Et parce que j'aime bien être en maillot.
Ok.
Ou en culotte, ou nu.
Ou nu.
Sur la plage.
Ouais, d'accord. Voilà. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'utilise sans... On est d'accord que... Ça, c'est un truc qui sort
ouais.
assez... Est-ce qu'on est d'accord pour dire que... Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que... C'est... J'ai envie que les gens soient d'accord avec moi, okay. Manifestement. Donc, je les encourage à l'être.
Ok, très bien. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?
J'aime passer du temps avec mes proches. Ça peut être du temps autour d'une bonne bouffe, du temps de réflexion autour de sujets qui m'intéressent. J'aime bien tout ce qui a trait quand même à la culture, le partage, le voyage. Et puis évidemment, les sujets de sexualité, de féminisme, d'émancipation et de libération sont des sujets qui m'intéressent quand même beaucoup. Mmh. Même si le fait que j'en fasse beaucoup au quotidien fait que du coup, dans mon temps perso, ben, j'en fais moins.
Ouais.
Là où à une époque, ce qui est bien, hein, parce qu'il faut un équilibre à un moment.
Bien sûr.
Mais là où à une époque, c'était quelque chose de très porteur et de très éduquant pour moi aussi.
Ouais. Ouais. Ok, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai posté un truc sur Instagram... en disant, voilà, si vous avez des thématiques de prochains thèmes pour le podcast, etc. Je crois qu'il y a eu une petite dizaine de... invite une sexologue.
Ouais.
Et bizarrement, vous êtes devancés, les gars.
Habile.
Justement, comment t'es arrivée à être sexologue ? Parce que je crois qu'à la base, je crois que tu voulais être juge pour enfants,
ouais.
C'est ça ?
Alors, je sais pas, j'ai une conviction très jeune. Je sais pas si on est un peu de la même génération, mais nous, à l'époque, en troisième, on avait un stage en entreprise à faire.
Ouais.
Et je sais pas,
moi... Il y a plus, ça ?
Non, je crois pas.
Ah bon ?
Enfin, peut-être que... Ouais, je sais pas, peut-être. Remarque. Mais il me semble... Je suis pas sûre, hein.
Ok. C'est en seconde.
Bon.
Ok, bon.
Et je sais pas, au milieu du collège, ça m'a pris, donc je sais pas, peut-être vers 12 ans, de me dire que j'allais faire du droit. et que j'allais être juge pour enfants. Donc j'ai fait mon stage au tribunal de grande instance de la belle ville de Carcassonne. Puis après je suis allée au lycée, puis j'ai passé mon bac, et puis je suis allée en fac de droit, du coup, sans trop me poser de questions, puisque c'était ce que j'avais décidé. Bon, je me suis vite rendu compte que mes aspirations et mes fantasmes n'étaient pas tout à fait collés à la réalité de l'université. Et puis j'ai changé de voie après quelques années à me former plutôt à quelque chose de citoyen en fac de droit. J'ai plutôt fait des manifs et des grèves que suivi les cours au final, mais c'était très intéressant aussi. Et puis ça m'a orienté vers quelque chose qui était quand même dans l'aide et dans la relation à l'autre, puisque je suis devenue assistante sociale. Donc j'ai repris, j'ai passé les concours, j'ai fait 3 ans d'études.
Ah ouais?
Ouais.
Et comment tu l'as vécu, ça, justement, de reprendre les études? Tu l'as vécu comme un échec ou plutôt comme un truc de « c'est génial, je suis en train de trouver quelque chose qui me plaît vraiment ».
Forcément un peu comme un échec, parce qu'il y a quand même ce truc où, bon, après, soyons clairs, hein, en fac, je bossais pas du tout, et en fac de droit, hormis si t'as des facilités quand même extrêmement variées dans pas mal de domaines différents, ça demande quand même du taf, et surtout beaucoup de taf d'apprentissage. Donc je l'ai quand même un petit peu vécu comme un échec, parce que je pense que j'aurais pu travailler un petit peu plus que ce que j'ai fait, mais vraiment, moi, ça m'intéressait pas. Ce qui me plaisait, c'était le droit pénal, la criminaux, qui devait faire une heure par semaine, et éventuellement et le droit des familles pour tout le reste.
D'accord.
Le fiscal, l'administratif, tous les trucs généralistes qu'on faisait et par lesquels on était obligé de passer, ben, ça me plaisait pas. Donc il y a eu aussi du soulagement de quitter ça, avec un petit sentiment d'échec aussi, de me dire ok, je reprends un truc à zéro, je me prépare pour passer des concours.
C'est hyper courageux aussi, je trouve, hein, de quitter un truc pour en reprendre un autre.
Ouais, puis je regrette pas du coup, puisque ça m'a permis de...
Parce que t'as fait une fac après pour devenir éducatrice spécialisée.
Assistante sociale.
Assistante sociale. Je confonds complètement les deux à chaque fois, faut le savoir.
Travail social quand même, on est un peu dans la même famille, on est cousins quoi.
Ok, et donc ça, t'avais ça combien de temps?
Alors c'est 3 ans d'école, avec un concours à l'entrée et une espèce de concours à la sortie.
Ok.
Et une fois que j'ai été diplômée, donc un diplôme d'assistante service social, je suis partie à la ville, puisque je suis partie travailler à Paris.
À la capitale.
À la capitale, tout à fait.
À la capitale.
Oui, parce que j'étais un peu à la ville, pardon, les Toulousains qui écoutent peut-être. Je suis partie à la capitale. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et il me semblait que je ne le trouverais qu'à Paris. Donc
et c'était quoi ton idée précise?
Moi, je voulais travailler avec un public porteur du virus, enfin, malade du sida ou porteur du VIH. Donc j'ai fait mes stages là-dedans quand j'étais en école d'assistante sociale, j'ai fait mon mémoire là-dessus, et du coup je voulais travailler dans une structure d'hébergement, c'était assez précis à mon avis.
Pourquoi c'était si précis?
Parce que dans la structure d'hébergement, il y a l'aspect individuel dans le suivi et la relation d'aide, et il y a l'aspect aussi possiblement collectif, puisqu'il y a des temps autres que juste travailler entre 9h et 17h. Il y a des temps de soirée, il y a des temps de week-end où on peut faire des sorties, où on peut faire justement des repas, où on peut faire des groupes de parole. Enfin voilà. Et moi, ces temps collectifs me plaisaient vachement et m'attiraient.
Oui, il y a une liberté un peu plus grande. Ouais.
Et puis, on travaille différemment. Donc, comme on bosse aussi sur les week-ends, t'as des semaines différentes. Voilà, on avait des semaines de 4 jours. On faisait des grosses journées après. Mais on avait des semaines de 4 jours avec un ou deux week-ends, enfin un week-end et demi bossé par mois, je crois, si je me rappelle bien. Donc, des périodes aussi où on avait 4 jours de repos. Enfin, il y avait un rythme un peu différent du lundi-vendredi qui me plaisait assez.
Ok, et donc ça, t'as fait ça pendant combien de temps?
J'ai fait ça pendant 6 ans.
Ok.
C'était mon premier travail d'assistante sociale et le seul, hein, puisque après, j'ai encore rechangé. J'ai encore repris des études, mais j'ai fait ça pendant 6 ans. Et je pense que c'est ce travail-là qui m'a donné envie de devenir sexologue.
Et oui, alors pourquoi du coup t'as changé et comment ça s'est opéré en toi? Pourquoi tu t'es dit « je veux devenir sexologue » ?
Bah, y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu un mouvement personnel et associatif où, en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser à moi en tant que jeune femme. Je sais pas, je devais avoir entre 25 et 28 ans.
Sur ta sexualité, tu veux dire ?
Sur ma sexualité, sur mes relations, sur ce que je cherchais, sur ce que je comprenais ou pas du monde et de la société. Donc, il y a eu un petit peu tout ça qui s'est quand même réveillé. Il y a eu mon engagement auprès d'asso un peu féministe, où j'ai commencé à aller assister à des ateliers, à des conférences autour de la sexualité féminine. Enfin, il y avait tout un truc qui était quand même sur ma propre éducation, on va dire. Et en parallèle, dans le taf que je faisais, moi, ce qui me plaisait, c'était finalement de parler d'intimité avec les personnes que j'accompagnais. Donc, c'était un public assez varié, c'était hyper intéressant. Il y avait des femmes originaires d'Afrique subsaharienne qui vivaient hyper mal avec leur maladie et qui du coup avaient coupé toute relation à leur corps et toute sexualité, toute envie de couple ou même de parentalité, c'était des choses qui étaient complètement parties, puisque hyper stigmatisant de vivre avec le sida. Il y avait des hommes séropos porteurs du virus depuis les années 80 qui avaient des relations avec d'autres hommes, il y avait des travailleurs du sexe, enfin c'était assez varié comme public. Et en individuel comme en collectif, il y avait plein de moments où moi je montais des groupes de parole pour justement pouvoir parler de qu'est-ce que c'est vivre avec le VIH, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à être amoureux, à être en couple, comment est-ce qu'on en parle aux partenaires, comment est-ce qu'on se protège, comment on protège l'autre, comment est-ce qu'on peut envisager d'avoir des enfants, enfin voilà. Et ça, ça me plaisait vachement et je trouvais ça hyper cool de mixer un peu tout ce monde-là.
Puis j'ai l'impression qu'on en parlait quand même vachement moins que maintenant. Hein.
On en parlait... Bon, j'ai l'impression que c'est quand même toujours tabou. Enfin, il y a quand même encore...
C'est toujours, bien sûr, mais c'est que c'est assez récent, tu vois. J'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'on commence à libérer la parole sur plein de choses. Mais...
J'ai peut-être un biais, moi, là-dedans, parce que ça fait tellement longtemps que je traîne dans le milieu que j'ai l'impression que c'est quand même... Enfin, voilà, les associations, pas mal d'institutions publiques ont quand même fait beaucoup de travail de prévention et de réduction des risques. Donc, j'ai l'impression qu'on avance plus grâce à la PrEP. On parle plus du VIH aussi grâce à la PrEP, qui est donc un traitement pour éviter d'être contaminé au VIH. Mais oui, peut-être qu'il y a effectivement une petite dizaine d'années, c'était encore timide.
Et donc, quand tu as commencé à te dire « j'ai envie de parler de l'intime », tout de suite, le métier de sexologue t'est apparu ?
Ben, j'ai réfléchi quand même pendant un petit moment. J'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce qu'il existe. Donc, j'ai tapé tout un tas de mots dans le moteur de recherche Google, qui était mon meilleur ami à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qu'il existe ? À quoi je peux prétendre, moi ? Parce que... Il faut comprendre comment ça marche, les filières sexo-santé sexuelle. Il faut savoir que le titre de sexologue, en France, il n'est pas protégé. Donc, il y a plein de formations différentes. Et très franchement, il faut trier quand même, c'est compliqué. Et puis, t'aller dans sexothérapeute, sexologue, qu'est-ce qui est différent ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des diplômes qui sont plus valorisés que d'autres ? Est-ce qu'il y a des formations qui sont mieux ? Qu'est-ce qui te rend légitime quand même à pratiquer à un moment ? Ça, ça m'a pris au moins 2 ans, franchement, de fouiller.
Ouais.
C'était dur, hein, franchement.
Mais alors, tu t'es dit, je vais aller vers quelle branche ?
Ben, j'ai toqué à pas mal de portes d'abord. Donc, le fait d'être dans des milieux un peu associatifs, féministes, où on parlait déjà un peu de sexualité et tout ça, ça m'a permis de rencontrer des gens. Et puis après, j'ai cherché des professionnels, moi, sur les pages jeunes. Et je leur envoyais des messages en leur disant « Coucou, j'aimerais bien que vous me parliez un peu plus de votre parcours. Peut-être que je veux faire ça, mais je suis pas bien sûre. Par quoi et où êtes-vous passé ? Est-ce que vous voulez bien qu'on se rencontre ?» J'ai rencontré plein de gens comme ça.
Génial.
Donc ça, c'était quand même hyper intéressant aussi. Ça m'a beaucoup embrouillé l'esprit pendant un certain temps, parce que franchement, j'étais là, je comprends encore.
T'avais plein d'infos, quoi.
Ouais, et puis je comprenais encore moins bien qu'est-ce qu'il fallait que je fasse.
Ouais.
Puis moi, j'avais le truc de, je suis pas médecin, donc je peux pas prétendre à certains DU. Je suis pas psy, et je le serai pas, parce que je vais pas repartir à zéro à la fac, là, pour le coup.
Ouais.
J'étais aussi pas prête à tout reprendre à zéro.
Ouais.
Donc clairement, ça m'a demandé un petit tri, là, qui a été un peu complexe et un peu nébuleux. Puis à un moment, je me suis lancée dans une formation d'abord privée, parce que ça me permettait de continuer à bosser en même temps, d'avoir mes activités associatives en même temps, et que c'était pas tous les jours, et que ça demandait pas trop de charge de travail. Enfin, il y avait quand même des critères un petit peu où je voulais pas me mettre trop dans le dur.
Ouais.
J'ai fait ça en 2 ans, c'était.
Ok.
Donc j'ai eu un diplôme d'études appliquées en sexologie et santé publique.
Ok.
Et ensuite, j'ai commencé à... Par quel bout j'ai pris déjà ? Oui, j'ai négocié une rupture conventionnelle de contrat.
Ok.
Hyper dur, hyper long aussi.
Ouais, bah ouais.
En me disant, ok, en fait, il me faut de l'espace pour m'installer ou pour prétendre à autre chose maintenant. Ouais. Donc j'ai passé une année un peu galère au chômage, en essayant de m'installouiller par-ci, par-là. Mais c'est pareil, t'as pas de thunes, t'as pas de réseau.
Ouais.
Donc franchement, c'est dur, hein. Mais heureusement, pareil, l'associatif, dont là j'ai été bénévole à Solidarité Sida, enfin j'ai fait...
Oui.
J'ai planté plein de trucs un peu partout.
C'est ça. Donc là, ça fait combien de temps ?
Que je suis installée ?
Ouais.
Là, ça fait entre 6 et 7 ans.
Ça fait 6, ok, d'accord.
Un
alors
peu
du coup,
6 ans.
Ton travail au quotidien, ça consiste en quoi ?
Donc moi, je suis sexologue, ni médecin, ni psychologue.
Ouais.
Donc la sexologie, c'est quand même une discipline qui est un peu aux confins de tout ça, ce qui est hyper intéressant parce qu'on peut aller toucher à plein de choses. Mais c'est important d'avoir bien conscience de ses limites aussi.
Ouais.
Je peux pas faire de psychothérapie, par exemple. Donc c'est important pour moi d'avoir un bon carnet d'adresses pour pouvoir réorienter ou de recevoir les gens, quand les gens viennent me voir et qu'ils sont déjà en psychothérapie, c'est la voie royale pour moi, c'est quand même... Ça, c'est parfait.
Pourquoi ?
Bah parce que du coup, il n'y a pas
ils ont déjà amorcé, désamorcé, ouais. Enfin, des trucs... Ouais.
Et puis sur les sujets que moi, je ne suis pas ni légitime, ni compétente pour traiter,
ouais.
C'est hyper rassurant de se dire que je ne suis pas en dehors de mon cadre non plus.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et qu'il y a... moi, je peux traduire des choses. Je peux poser les problématiques ou je peux poser des mots. Mais après, par exemple, pour traiter du psychotrauma ou des choses comme ça,
oui.
Je peux faire vraiment une belle introduction, mais je ne peux pas du tout accompagner ça au long cours. Donc, c'est très bien qu'il puisse y avoir d'autres professionnels dans la partie. Et du coup, ça consiste principalement à écouter quand même, et puis à conseiller.
Mais donc, c'est soit dans ton cabinet, soit à l'hôpital.
Ouais.
Et donc, t'es dans de l'écoute,
oui.
Et dans du conseil.
Ce sont des discussions, justement. On n'est pas dans une thérapie analytique où je ne parle pas. Moi, je suis vraiment c'est très interactif. On creuse. Il y a ce qu'on appelle un motif de consultation, dont généralement, les gens viennent pour une raison bien précise.
Ouais.
Par exemple, au premier rendez-vous, donc moi, je vais passer un petit peu de temps à me présenter. Souvent, ils n'arrivent pas par hasard. Il y a pas mal de bouche à oreille, ou alors ils ont vu certaines choses. Ils savent un petit peu vers qui ils sont orientés quand même. Donc, on s'assure de parler un petit peu la même langue tout de même. Ouais. Mais c'est important pour moi de me présenter, de raconter un peu ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire, de raconter un peu mes orientations et qu'est-ce que je peux amener quand même dans la réflexion générale en termes sexo. Ensuite, les personnes me racontent pourquoi elles viennent. Et de là, on va creuser quand même au moins sur deux séances le parcours global.
Ben c'est au moins deux séances.
Oh ben, au moins, parce que c'est très compliqué pour moi de poser un diagnostic, une éval ou une orientation.
Ouais. Il y en a que tu vois depuis un an, deux ans.
Ouais, il y en a que je vois depuis assez longtemps. Mais alors moi, je ne vois pas les gens toutes les semaines, par exemple.
D'accord.
Et puis, tous ceux que je vois depuis un an ou deux, c'est surtout des couples quand même. Et c'est des couples que je vais voir, que j'ai pas mal vu au début, entre une fois tous les 15 jours et une fois par mois, tu vois, on a enclenché des choses et mis en place plein de choses. Et puis après, je vais les voir peut-être tous les 6 mois ou tous les 4 mois.
C'est ça, un peu en suivi, quoi. Et est-ce que tu as des thématiques un peu de prédilection ? Parce qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres, on va dire, entre guillemets.
Alors, en vrai, franchement, oui, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, mais globalement, il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent. Et les personnes te forcent à t'intéresser quand même à des choses desquelles t'es peut-être un peu moins proche. Maintenant, si on prend ce que je fais le plus à l'hôpital, moi je bosse en maladies infectieuses et tropicales. Donc je travaille énormément sur les questions de chemsex et de PrEP, par exemple, de VIH ou d'hépatite C. Donc tout ce qui va être prévention, réduction des risques. Et du coup, je travaille avec un public d'hommes, essentiellement, d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.
Tu peux juste, même si on a déjà fait un épisode qui est d'ailleurs, je crois, le troisième épisode du podcast, un truc comme ça, le deuxième épisode sur le chemsex, est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui...
Ouais.
Et je ne veux pas l'expliquer et dire des bêtises, donc...
Alors, le chemsex, c'est un mot valise qui vient de chemical, chimique et sexe. Et ça signifie la pratique de consommer des produits psychoactifs dans un contexte sexuel. Et ce qui est hyper important de comprendre avec le chemsex, c'est qu'il y a une notion d'intention. C'est pas juste tu sors, tu prends un taz en soirée, et puis tu rencontres quelqu'un et tu rentres avec cette personne-là et tu as un rapport sexuel. C'est pas à proprement parler considéré comme du chemsex. Le chemsex, c'est des rencontres sexuelles prévues avec du produit.
Ouais. Et c'est des mélanges de drogues, hein, d'ailleurs.
C'est des mélanges de drogues pour la plupart. Après, c'est certains produits qu'on consomme. On peut faire du chemsex avec tout type de produits.
Ouais.
Mais on se rend bien compte qu'il y a des drogues qu'on va qualifier de plus sexuelles.
Et oui.
Parce qu'elles donnent plus envie, parce qu'elles sont plus entactogènes, parce qu'elles donnent un peu l'impression d'être aussi beaucoup plus sensibles, amoureux, séduits, etc. Donc, c'est ces produits-là qu'on utilise. Et c'est souvent de la polyconsommation, effectivement, mais de certains produits. On va parler de catinone, la 3-MMC.
Ah, 3-MMC, voilà ça.
La catinone, c'est la grande famille.
Ouais.
À l'intérieur, il y a une drogue dont on entend beaucoup parler qui s'appelle la 3-MMC, mais c'est une histoire de molécules.
Ouais.
Et du GHB, dont on entend aussi beaucoup parler. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même souvent le couple gagnant.
Ouais, ok. Lorsque, justement, tu nous as contactés, tu nous as dit que tu avais une approche assez militante et que tu ne pouvais pas voir ton positionnement professionnel autrement qu'en étant militant. Qu'est-ce que ça implique pour toi, justement ?
Ben, ça implique notamment que dans ma présentation, moi, je me définis comme une sexologue féministe et engagée, que ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les stéréotypes de genre, sur les normes, notamment autour de l'hétérosexualité et des ou les normes sexuelles au sens très large, hein, parce qu'au final, on peut être un couple de même sexe et être empêtré dans des croyances et dans des normes de ce qu'il s'agirait de faire ou de vivre pour être au bon endroit. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un truc qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime beaucoup dans ce que je fais pouvoir amener quand même une parole un peu déculpabilisante, pouvoir travailler sur, en fait, de toi, de quoi t'as vraiment envie, qu'est-ce qui te fait du bien, et est-ce que ta sexualité, finalement, elle est pas à un autre endroit que ce que t'avais imaginé initialement, quoi.
Ouais. C'est marrant parce que j'avais une discussion avec mon mec, justement, sur la liberté de parole qui s'est vachement ouverte au nom des binaires, non-binaires, etc. Et en fait, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se perdre dans tout ça. Et en même temps, je trouve qu'il y a une déconstruction de tu vois, des pensées qui est hyper intéressante parce qu'il y a une possibilité qui est
ouverte.
Déjà pluri. J'ai pas le mot.
Plurigenre.
Possibilité. pas mal.
Pluripossibilité.
Oui, ben, pluripossibilité.
Non, mais c'est vrai qu'on est dans une période où on déconstruit un petit peu à la pelle et au tractopelle beaucoup de trucs.
Ouais.
Moi, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir aboutir à quelque chose de plus serein.
Ouais.
Alors, je sais que ça éveille aussi beaucoup d'anti, hein, et de gens qui sont contre les féminazis, contre les extrémistes du poil et autres petits sobriquets très sympathiques pour mettre tout et n'importe quoi. Contre la question du genre, bien évidemment, parce que toutes les pensées essentialistes et biologiques sont encore quand même bien défendues par beaucoup de gens. N'empêche, c'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu dans tout ça, mais moi je me dis, c'est pas grave.
Non, c'est clair.
Du moment que ça existe et qu'il y a des gens qui en parlent, et remercions les gens d'avoir le courage d'en parler.
C'est clair.
Parce que franchement, ça fait du bien à plein de monde.
Ouais, mais c'est pour ça. En fait, je trouve que ça déconstruit vachement de pensées, en fait, vachement de croyances limitantes. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. On a beaucoup de croyances limitantes parce qu'on grandit dans une société comme ça.
Bien sûr.
Et qu'en effet, on en parle beaucoup et on déconstruit beaucoup de choses. Donc parfois, en effet, on peut se perdre un peu. Mais moi, je suis complètement en raccord avec toi en fait, on a besoin de ça.
Ouais.
Et que je crois que les gens chez qui c'est compliqué, c'est qu'en fait, ça vient toucher chez eux quelque chose.
Ça vient toquer à la porte. Hein.
Voilà. C'est exactement ça.
Moi, c'est ma pensée profonde et j'en suis assez convaincue. Après, j'espère et je souhaite que ces personnes-là puissent avoir un endroit ou un espace où ils puissent s'interroger en toute tranquillité.
Je pense qu'ils le feront jamais.
Eh ben,
franchement, je pense qu'ils le feront jamais.
Mais tu vois, ça, c'est mon naturel optimiste.
Mais t'as raison. Moi, c'est mon naturel, genre, je sais pas, je trouve que ils ont pas cette intelligence-là.
Mais j'ai bien conscience qu'ils n'iront pas. Je vois bien tous les commentaires, tous les trucs. Des fois, je me fais des sessions où je vais lire sur Insta un peu ce qui se passe. Ouais. Évidemment, je suis plus qu'affligée de la bêtise, déjà, des propos et de la petitesse de la réflexion.
Ouais.
Bon. Après,
et puis après, il y a aussi un truc vachement générationnel parce que on sort un peu du truc, mais pareil, j'en parlais avec mon mec et on parlait de l'homosexualité. Et je pense que pour nos parents, enfin, tu vois, j'ai 35 ans, on est un peu de la même génération. Mmh. Pour nos parents, l'homosexualité, c'est parce que c'est vraiment, moi je sais que ça me fait rire, c'est absolument pas marrant, mais qu'en fait, mon père, il me disait, moi quand je. Enfin, il me dit, quand il voit deux hommes s'embrasser,
ça lui génère un truc.
Ça le gêne, ça le ramène à lui. Mmh. Tu vois, ça vient toucher quelque chose en lui. Le père de mon mec, à un moment, je lui ai posé la question il y a quelques années, genre, si ton fils, il t'avait dit qu'il était homo. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Et pareil pour la mère de mon mec, les lesbiennes, tu vois, c'est un truc, je pense qu'il y a un truc générationnel qui vient toucher en eux, tu vois, un truc de rejet, parce qu'on s'identifie, les gens s'identifient.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de projections.
Énormément, alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est presque un non-sujet, enfin, tu vois, pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est devenu un peu un non-sujet. C'est pour ça que parfois, je trouve qu'il faut même pas en parler, même si c'est évidemment très important d'en parler, mais j'aimerais bien que ce soit plus un sujet.
Ben, moi aussi, j'aimerais beaucoup ça, et c'est pour ça que, moi, je continue, dans mon engagement et dans mon militantisme, le fait de bosser à l'hôpital, dans un service de maladies infectieuses, avec une population essentiellement masculine et gay, c'est aussi un engagement de ma part, parce que l'homophobie, ça existe malheureusement encore.
Ouais,
alors, c'est pas que envers les mecs, hein, mais on les voit plus, peut-être, les hommes gays.
Parce que, et puis les nanas, ça représente un fantasme.
Oui, il y a encore ce truc-là qui est bien inscrit, c'est sûr.
Ouais.
Mais je crois qu'il faut encore des agressions homophobes, il y en a quand même tous les jours.
Ouais.
Il y a encore plein de pays où c'est passible de punition ou de mort. Enfin, on est encore dans un système quand même où on ne considère pas qu'on puisse être juste différent ou vivre.
Mais c'est même pas être différent, c'est juste pour moi, c'est même. Il y a même pas
non,
de différence.
Non, différent d'une norme, pardon.
Oui, différent d'une norme.
D'une norme majoritaire. Ouais, oui. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi.
Podcast.
Comment on fait pour créer justement un environnement ouvert et de confiance avec un patient? Comment ça se passe?
Bah, le premier rendez-vous, il est hyper important. C'est important de prendre le temps, c'est important d'accueillir. Enfin, il y a un truc, les patients, quand ils viennent pour la première fois... Alors, dans l'enceinte de l'hôpital, c'est un peu plus facile parce qu'ils sont déjà dans un service où ils viennent pour quelque chose en rapport avec leur santé sexuelle.
Okay.
Donc, il y a quand même un truc un peu facilité. En revanche, dans le cabinet, clairement, c'est difficile. Hein. Parfois, ils arrivent, ils sont mutiques, ouais. Ils n'osent pas parler. On sent que ça leur a coûté de venir, de prendre rendez-vous. Ouais.
Parfois, c'est difficile, hein. Je pense que la démarche, elle doit être difficile.
Bien sûr, mais comme d'aller voir... c'est un peu pareil que d'aller voir un psy, finalement, ouais. Qui est devenu un peu plus facile, parce qu'on en parle aussi plus, et que ça s'est un peu démocratisé. Mais...
Oui, mais c'est se montrer vulnérable, et c'est être prêt à se confronter à soi. Ouais. Et ça, c'est hyper dur.
Mais c'est pour ça que moi, je leur raconte pas mal qui je suis, aussi pour qu'ils sachent à qui ils parlent, et pour qu'on puisse se dire, à la fin de la première séance, on a le droit de pas parler la même langue et de pas se sentir sur le... Il y a pas de fit mutuel ou il y a pas... Il manque quelque chose. Moi, j'ai envie que... En fait, on va devoir bosser ensemble. Ouais. Donc, si on n'y arrive pas...
Non mais en vrai, c'est même comme... C'est comme une relation amoureuse de drague au début. Si ça match, bah c'est cool. Ça match pas, c'est cool. Enfin, c'est pas grave,
c'est ça.
Quoi.
Mais moi, c'est un peu ce que je leur dis, en leur disant, mais si jamais on continue pas ensemble, vous serez pas venus pour rien, parce que j'aurais peut-être identifié deux, trois trucs, et je vous proposerai peut-être une autre personne que je pense être mieux pour vous. Enfin, il y a une idée d'accompagner quand même jusqu'au bout. Ouais. Parce que pareil, en sexothérapie, j'ai entendu quand même tellement de gens venir me voir en me disant, voilà, j'ai essayé plein de personnes, j'ai déjà rencontré des fois plusieurs sexologues hein, avant de trouver une personne avec qui ils se sentent à l'aise. Je dis pas que c'est moi parce que je suis super, même si c'est un petit peu vrai. Mais, je comprends cette espèce d'errance, c'est dur quoi.
Oh, c'est hyper dur.
Et c'est pour ça que pour moi c'est important de dire, on a le droit de pas parler la même langue.
Ouais.
C'est ok si vous m'appréciez pas. Bon, je le dis pas comme ça, c'est mieux dit, mais ça peut arriver. Et puis l'idée, c'est pas qu'ils repartent en se disant, allez, super, on a mis 100 balles à la poubelle. Et puis.
Non, mais en plus, tu vois, je crois qu'en psy, on dit le transfert.
Ouais.
Faut que le transfert, qu'il y ait un bon transfert. Enfin, moi, si tu savais le nombre de psy que j'ai vu, ça le faisait pas, tu vois. Je sentais pas le truc, je sentais pas la personne.
Ben ouais.
Et parfois, c'est juste parce que toi, t'es pas dans le moment et que ça matche pas, et c'est ok, quoi.
Mais, ça peut arriver aussi, mais c'est important, en fait, depuis quelques temps, on dit vachement plus facilement la gynéco ou le gynéco que vous voyez ou le médecin que vous voyez ne vous convient pas, vous ne rompez pas les soins, mais vous changez de professionnel, en gros. C'est pas de votre faute. Considérons que c'était pas une bonne association, mais que ça vous coupe pas du soin, quoi. Que vous puissiez aller voir quelqu'un d'autre.
Ça me fait juste penser à un truc qui n'a peut-être rien à voir, mais quand tu parles de gynéco, etc., je reçois quand même relativement souvent des messages de gens qui me disent « Mais toi, tu subis pas de grossophobie dans le corps médical ?» Et en fait, très souvent, je dis non, parce que j'ai trouvé les bons médecins.
Bah ouais.
Et ça a été long hein. Mon gynéco, je l'aime trop, mais j'en ai eu des gynécos affreux, jugeants et grossophobes, des endocrinos, évidemment. Ouais. Et je pense que c'est pareil pour tout. Comme mais toute pour, relation.
Pour tout vrai. Praticien et pour toute relation, effectivement, quand il y a une posture un peu de patient professionnel.
Parce qu'il y a le sachant.
Oui.
Tu vois,
Et ça, ce truc-là du sachant, en fait, le sachant, c'est pas parce qu'il sait qu'il peut être imbu, désagréable, voire violent.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
On le voit de plus en plus et c'est vachement bien que les paroles se libèrent aussi à cet endroit-là.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas cesser de répéter, c'est vraiment si le professionnel de santé que vous voyez ne vous convient pas, santé mentale, santé physique, il y en aura un autre qui vous conviendra. Donc c'est dur parfois parce que c'est décourageant, mais il faut chercher quoi.
Ouais, exactement.
Et il y a vachement de réseaux maintenant qui sont en train un
petit d'ailleurs,
peu
il me semble qu'il y a une liste de gynéco-féministes,
Il y a Gynenco et les Clés de Vénus qui sont des sites qui répertorie via l'avis des patientes aussi qui est-ce qui est safe comme praticien, en gros. Ouais. Justement, sur toutes ces questions un petit peu d'inclusivité au sens très large.
Ouais.
Donc ça, c'est plutôt chouette de voir qu'il y a des mouvements quand même un petit peu collectifs qui se montrent. Mmh. Nous, on est en train de créer un groupe de thérapeutes féministes aussi, là.
Ouais.
Justement, on va élaborer une charte pour aussi pouvoir proposer un cadre de réflexion aux patients sécurisé.
Ah ouais, mais c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai vu, dès que j'ai trouvé les médecins à l'écoute, et ça a tout changé. Mais vraiment, ça a tout changé parce que
t'as accès aux soins, en fait.
Bah déjà, et puis en fait, avant, j'étais vachement dans une position de victime, enfin pas de victime, mais de bah c'est normal, c'est normal qu'on me traite comme ça, quoi.
Ouais.
Tu vois le nombre de médecins où en fait tout va être amené au poids. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, parce que en effet, non mais je veux dire quand je vais voir une médecin parce que j'ai une angine et qu'on me dit que c'est parce que t'es grosse, peut-être qu'en effet c'est vrai, peut-être. Mais je viens pas là pour ça, en fait. Tu vois. Et que le jour, je parle de mon gynéco parce que vraiment, ça a été un game changer, comme on dit. C'est que le jour où je l'ai trouvé, c'est par une abonnée d'ailleurs, par hasard. En fait, la première fois qu'il m'a fait un frottis, il a éteint la lumière, enfin, il a baissé un petit peu la lumière, il a dit, est-ce que je peux, est-ce que c'est ok pour vous? Je vais y aller, je vais insérer le truc. Je me suis dit, putain, mais d'où il me demande la part? Enfin, d'où il me demande, tu vois, mon autorisation? Et j'ai trouvé ça hyper normal, en fait.
Ben oui.
C'est normal.
Et ça n'a pas pris beaucoup plus de temps.
Non.
Ça a mis en confiance. Oui, ça change tout. Ouais. Il y en a plein hein, qui le font maintenant, ça c'est quand même assez chouette.
Fait, tout à fait.
De voir que c'est un truc qui s'est quand même vraiment démocratisé.
Ouais, tout à fait.
Mais
bon, tout ça pour revenir au fait que, en effet, c'est important d'instaurer un climat de, j'allais dire, de confiance et de là où tu te sens bien, quoi. Parce que si le thérapeute ou le médecin avec qui t'es, tu le sens pas, il faut partir.
Bah oui.
Il faut simplement partir. On va marquer une petite parenthèse qui s'appelle Don't Tell Ango Cats. Devant toi, il y a des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Okay. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Qu'est-ce qui t'intéresse? La joie. Très bien, tu peux prendre le tas dans ta main. Et là, tu prends une carte au hasard, sans regarder.
Hop.
Et je veux bien que tu nous la décrives, s'il te plaît.
Alors, il y a deux mots. Curieuse, curieux, avec un petit dessin d'un mec, ou pas un mec d'ailleurs, une personne qui plonge avec des palmes, une petite bouteille d'oxygène, et qui est manifestement au fond de l'eau en train de trouver un petit coffre avec de l'argent dedans, ou ce qui ressemble à des trucs dorés.
Ok.
Donc des sous, des écus.
Des écus. Et donc, il y a écrit curieux, curieuse.
Ouais.
Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah, l'exploration.
Ouais.
Le fait d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe peut-être dessous ou dessus, ou ailleurs d'ailleurs. Là, c'est sous l'eau, mais ça pourrait être ailleurs. Le fait d'aller explorer et peut-être de découvrir des trésors.
Ouais.
En étant curieux.
Ok. Donc j'aimerais bien, du coup, que tu me parles un peu de ce qui te vient en tête là, maintenant, te concernant, sans que tu réfléchisses. Qu'est-ce que ça provoque en toi? À quoi ça te fait penser? S'il y a un truc qui...
Oui, bah après, vous allez vous dire que le lien, il est très facile, mais je fais le lien avec la sexualité, avec l'exploration, la curiosité, d'être curieux de soi, de son corps, de ses plaisirs, d'être curieux de l'autre.
Et tu l'es, toi ?
Je l'ai beaucoup été. Je le suis peut-être moins aujourd'hui, je suis peut-être plus apaisée.
Tu penses qu'on est curieux quand on n'est pas apaisé ?
Alors, pas forcément, mais je pense que j'étais plus curieuse quand j'étais dans une période de recherche. De recherche de qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Enfin, qu'est-ce que j'aime et du coup, qu'est-ce que je veux, peut-être dans ce sens-là. Donc, je ne l'associe pas du tout à de la crise ou à du pas apaisé, mais je pense que là, je suis dans une phase plus tranquille de ma vie à cet endroit-là, en tout cas, qui me plaît. Hein. Ce n'est pas du tout morne ou chiant, c'est juste plus doux.
Ouais.
Je suis très contente d'avoir été cette jeune femme-là ou cette femme-là parce que je pense que ça m'a aussi beaucoup construite professionnellement. Et je pense que ça m'a beaucoup appris à pas juger et à accueillir du mieux possible, en tout cas, toutes les choses que je pouvais entendre. Mais je suis aussi contente d'être dans une autre phase. Et je me dis que ma vie à ce niveau-là n'est pas finie non plus.
Mais tu parles dans ta sexualité à toi.
Ouais.
Ouais.
Dans mon exploration, dans ma découverte, dans ma curiosité, justement.
Moi, je trouve ça bien quand on n'y est pas. Aussi, tu vois.
Ben, c'est apaisant quand on n'y est pas, mais que c'est pas une souffrance. Parce
exactement.
Que moi, je reçois plein de gens qui n'y sont pas, mais qui sont dans une souffrance.
Faudrait que je vienne
extrême.
Te voir.
Ben, c'est juste à côté, c'est pratique.
Ouais, mais bon, j'habite plus à Paris, donc c'est chiant.
Oui, c'est vrai. Mais oui, et ce truc de lâcher, en fait, de pouvoir lâcher, c'est pas grave de plus y être.
Ouais.
Mais ça veut pas dire que c'est foutu pour l'éternité. Enfin, il y a vraiment ce truc. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on a quand même besoin d'entendre qu'on peut traverser plein de phases différentes. Mais qu'on n'est pas condamné à être tout ou à être rien, comme si c'était très binaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Comment ça se fait que, selon toi, le rapport à la sexualité est si compliqué et si complexe? Parce que moi, de mon point de vue de non-sexologue, ça ramène à soi, à sa découverte, à son corps, à son estime, sa valeur, sa confiance, à l'histoire qu'on a pu vivre, tu vois, en lien avec nos parents parfois peut-être et tout. Mais comment ça se fait que, selon toi, voilà, il y a le sujet de la sexualité soit aussi complexe?
On n'arrive pas tous et toutes avec la même boîte à outils. Il y a un truc d'éducation quand même. Bon, déjà, on arrive dans une société où on se trimballe d'entrée un héritage qu'on n'a pas choisi. Selon où t'es né, à quelle époque, t'as un petit peu des siècles et des siècles de construction quand même autour du corps féminin, autour de la sexualité normative du couple hétéro, autour de l'enjeu à la parentalité. Enfin, déjà, on est hyper chargé de tout ça. Et ensuite, en fonction de ta famille, ton éducation, les rencontres que tu peux faire, ce que tu entends, déjà, tes outils se développent plus ou moins bien là-dedans. La culture, la religion, évidemment que ça joue. Et puis ensuite, il y a les rencontres et les expériences, heureuses ou malheureuses ou traumatisantes, qui vont aussi amener leur lot de complexité. Et il faut qu'on se dépatouille un peu en permanence avec tout ce bazar-là. Mmh. Pour ça que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir expliquer que non, la sexualité, c'est pas inné, c'est pas facile, que ça s'apprend et que ça bouge, et qu'on peut sûrement trouver un endroit où c'est peut-être un peu confortable. Ou plus confortable et surtout apaisé et que moi c'est vers ça que j'ai envie de bosser et c'est pour ça que le taf que je fais il me plaît. Moi je veux pas rendre les gens fonctionnels, je veux pas leur permettre d'être pénétrés parce qu'ils ne peuvent pas l'être, c'est pas ça mon but de sexologue. Ou d'avoir une érection fonctionnelle, disons qu'on va travailler autour de ça parce que ça peut être des motifs de consultation. Mais ce qui m'intéresse c'est qu'ils puissent trouver du désir, qu'ils puissent trouver du plaisir, qui puisse trouver du partage et de l'intérêt et de la curiosité du coup pour tout ça. Parce que quand on vient de te voir pour des troubles du désir, dans tout ce que ça peut vouloir dire, on est obligé de parler de curiosité là-dedans. Le désir, c'est pas un bouton sur lequel t'appuies et claque, ça marche ou ça marche pas, c'est pas si simple que ça quoi.
Non, c'est sûr. Mais en même temps, tu vois, c'est marrant parce que j'avais fait une conférence pour parler du postpartum et tout ça, et à un moment, c'était pas filmé et tout, donc je m'étais sentie hyper libre de parler de plein de trucs et tout. Chose que je n'ai pas forcément faire là, mais en tout cas, j'avais senti un regard de pas mal de femmes, parce que j'étais dans une période de ma vie, et j'y suis peut-être toujours un petit peu, où je disais que, en vrai, moi j'ai pas trop envie de faire l'amour en ce moment, depuis un moment. Pourtant j'aime mon mec, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, j'ai pas le désir d'aller voir ailleurs, sauf dans des fantasmes, enfin comme genre un peu tout le monde j'imagine, mais que j'ai moins le désir de ça, que j'ai moins le désir de faire l'amour, et donc ça rend le sujet... pas complexe, tu vois, mais il se prend des vents, enfin, c'est relou, machin. Et en fait, il y a une des personnes qui me dit, ouais, mais tu sais, c'est comme le vélo, tu remontes dessus et puis bon, tu vois.
Ou le fameux, l'appétit vient de t'en mangeant, moi, ça, c'est un truc
exactement,
que j'entends beaucoup.
Exactement. Et il faut se forcer un petit peu.
Ouais, bon, bah, moi,
et en fait, moi, quand m'a dit ça, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui me l'ont dit. Et je me suis dit, putain, merde, en fait, je suis peut-être pas normale, tu vois. Alors qu'en fait, je pense que c'est pas du tout...
Non, moi, je dirais plutôt que le fameux « faut se forcer un petit peu, puis ça passera ». Moi, c'est des trucs que j'ai pu entendre que mes patientes me disaient qu'elles avaient entendu de sexologues ou de gynéco ou de médecins, hein, quand elles faisaient état de « j'ai plus envie, j'ai pas envie ». Donc non, on se force pas pour que ça passe, parce que ça passe pas. Ouais. Mais par contre, justement, bon, déjà, si c'est pas le moment de ça, je crois qu'il faut accepter en fait qu'on soit pas des êtres linéaires en matière de sexualité et qu'on peut pas avoir une envie qui est invariable, un peu toujours au même endroit, au même moment. Ça marche pas comme ça. Il y a plein de mouvements différents qui bouleversent le quotidien et qui font qu'on a d'autres centres d'intérêt ou peut-être d'autres priorités. La question, moi, pour moi, essentielle, c'est est-ce que ça te fait souffrir ou est-ce que ça fait pas souffrir ce qu'on vit?
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et si ça fait souffrir, là, on essaye de mettre des choses en place.
Tout à fait.
Et par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de retrouver un intérêt pour quelque chose là-dedans.
On en reparlera lors d'une petite séance. Non, mais je voulais reprendre un peu le mot de la norme, parce que en préparant cet épisode, tu nous as vachement parlé du rapport à la norme, et tu l'as même évoqué là, depuis le début de cet épisode. Comment tous ces échanges que tu as, ça génère des réflexions sur qui tu es en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne, en tant que femme, je crois, hétéro, notamment sur l'hétéronorme, la maternité, ta construction sexuelle, tes propres limites, etc. Qu'est-ce que tu as appris sur tout ça?
Ben, je crois que j'ai appris à me foutre un peu la paix. Justement parce que je me suis rendu compte qu'on portait tous des rapports justement aux normes qui étaient assez solides et assez profondément ancrés et qui pouvaient rendre malheureux parce qu'on se sentait justement en dehors ou à côté ou pas de... Enfin voilà, différent du coup. Moi je crois que justement j'ai appris à accepter que non, bah, même si je suis sexologue, alors parce que ça aussi dans le truc des stigmas, je suis soit une folle du cul, soit je connais tout.
C'est ça,
Oui. Alors, ce qui n'est pas vrai, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais ouais. Donc, du coup, c'est intéressant aussi de voir comment, voilà, comment je m'approprie moi aussi tout ça par rapport à ce que je suis. Après, ce qui est sûr, c'est que ce que je vis dans mon travail me renvoie vachement de choses au niveau personnel.
Bien sûr.
Mais je fais aussi la part des choses et je peux être une professionnelle. Je pourrais ne pas avoir de sexualité et être, je pense, une bonne professionnelle.
C'est clair.
Même si le fait d'avoir des relations amoureuses et d'avoir des relations sexuelles ou en tout cas des interactions avec d'autres personnes sur ce plan-là m'a permis de comprendre plein de trucs. Peut-être que ça m'a ouvert une curiosité peut-être plus grande. Mmh. Mais effectivement, moi, je suis dans un couple hétérosexuel. Exclusif, super à déconstruction, j'ai rien déconstruit du tout. Donc, ouais, ça me fait un peu rigoler quand même, mais à la fois, je l'ai tourné.
Oui, c'est le paradoxe.
Mais je l'ai tourné dans tous les sens aussi, oui. Et j'étais là, ben j'en suis pas au, mais c'est pas parce au stade que... de ma vie où
non,
je
Non, mais
peux.
C'est ça en fait. C'est pas parce que t'es sexologue que forcément d'un coup tout est effacé.
Ben non.
Et qu'en fait tu es prête ou pas d'ailleurs, mais à dire oh, vas-y, viens, on baise avec qui on ouais. veut, tu peux baiser qui tu veux, moi aussi. Non, après c'est aussi des schémas qui te conviennent pas forcément. Peut-être que ça fait écho en toi à certains trucs.
C'est pour ça que ce truc de se foutre la paix, il est important.
Ouais.
Je me l'ai su poser ces questions-là, en me disant, bon, qu'est-ce que je veux en faire ? Parce qu'effectivement, le fait de me rendre compte qu'on pouvait faire autrement m'a permis de me dire, bon, moi, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'aime les filles ? Est-ce que j'aime les garçons ? Est-ce que j'aime les deux ? Est-ce que
oui.
j'aime
J'allais
tout
te
le
demander
monde
justement, est-ce que depuis que tu fais ce métier-là, t'as testé des choses dans ta vie sexuelle ?
Alors, c'était des questions que je m'étais posées avant, pour le coup,
ouais.
et qui ont peut-être accompagné mon intérêt pour et ma formation, c'est pas depuis que je fais ça. C'est plutôt en amont de tout ça que j'ai un peu ouvert ces questions-là et que, enfin, je suis à peu près allée où je voulais aller.
Ouais.
Et en me posant vraiment les questions, au final, il y a plein d'endroits où je suis pas allée. Il y a plein de relations que j'ai pas eues. Alors même qu'en fantasme, ça pourrait m'intéresser ou j'aime l'idée de pouvoir dire que j'aurais pu, mais en fait, ça m'attirait pas tant que ça. Donc je me suis pas non plus forcée à faire des choses sous couvert d'explorer pour pouvoir un peu tout connaître et tout voir. Par contre, j'ai énormément parlé à plein de gens, j'ai quand même énormément écouté de podcasts, j'ai maté des docus, j'ai lu des milliards de bouquins. Enfin, je pense que tout ça a aussi, m'a aussi permis de faire un peu la part des choses et de me dire que bon, bah, j'ai 38 ans, je suis en couple hétéro, je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas. Donc ça a été une grosse déconstruction.
J'allais te demander voilà. justement si tu en voulais ou pas.
J'en veux pas. Après, c'est pas simple, cette question.
De quoi ? De est-ce que tu veux des enfants ?
Ouais, de savoir.
Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui.
D'être sûr que t'es... D'être sûr
et
que
puis
t'es
de faire
sûr.
Le deuil aussi.
Ouais.
Que plus tu te rapproches
bah,
de l'âge fatidique, plus tu dis, ok, en fait, je n'en aurai pas et je n'en veux pas. Et c'est accepté, c'est acquis. Mais de faire le deuil, c'est autre chose aussi.
Ouais. Et ça, tu vois, c'était quelque chose dont j'étais assez convaincue que j'en voulais pas. Et que j'avais déconstruit, justement, tout le truc de la maternité. Et bon, bah, je suis tombée enceinte l'année dernière. Voilà. Donc, ça a été quand même un truc qui m'a beaucoup plus bouleversée que ce que j'avais imaginé et pensé, avec toutes mes certitudes. Donc, moi aussi, voilà, tout ce que je vis va me faire avancer et comprendre les choses aussi différemment sur la complexité, parfois, que c'est de savoir. Qu'on veut ou ce qu'on veut pas. J'ai fait le choix d'avorter, je suis très contente d'avoir pu le choisir, mais...
Ça n'en reste pas moins douloureux
ouais,
et difficile.
En fait, c'est hyper douloureux, j'ai été hyper triste, ça m'a bouleversé le corps aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui ont bougé à cet endroit-là, alors que j'étais un peu dans le discours de oh, « on a de la chance d'être en France ». On a de la chance d'avoir le choix, les femmes restent libres de leur corps, etc. etc. Ben là, j'ai compris les choses différemment, pour le coup, en les vivant.
Tu les as comprises comment différemment ?
Bah que justement, malgré le fait que tu pensais être à peu près sûr de ce que tu fais, bah, t'as le droit d'être triste aussi, t'as le droit de pleurer ça, t'as le droit
de douter aussi.
Ouais, t'as le droit de douter, t'as le droit pas peut-être de regretter aussi, t'as le droit de changer d'avis après ça, parce que je me suis aussi dit, moi, que c'était possible que j'avorte là parce que c'était pas le moment, mais que si je changeais d'avis, et ben, j'avais aussi le droit. Bon, et puis ça s'est éloigné, et puis au final, je me rends compte que ça m'a consolidée dans ma non-envie, mais il y a une période de trouble quand même. Donc je comprends du coup beaucoup.
Et puis il y a aussi les regards extérieurs de bon, quand même, attends. Ah, t'as 38 ans.
Ouais.
Ah, bah là.
C'est maintenant.
Ouais, c'est assez culpabilisant, bien sûr.
Ouais. Ouais, ouais. Et puis après, tu vois, tu arrives avec tes convictions aussi. Je sais pas pourquoi. Moi, je m'étais persuadée. Alors ça, ma psy serait ravie, parce que nous aussi, on est en thérapie, tout ça.
Vous êtes obligé ?
On n'est pas obligé, mais c'est quand même vachement mieux. Hein.
Ouais.
Franchement,
ouais.
Moi, les thérapeutes ou sexologues ou thérapeutes au sens large, qui sont pas suivis, je trouve que c'est quand même un peu risqué, quoi.
Podcast.
Est-ce que t'as une petite anecdote ou une expérience qui a particulièrement marqué ta carrière de sexologue ? Un truc qui te vient comme ça ?
Genre de quoi, de sujets abordés, par exemple.
Ouais, de rencontres.
Mais il y a plusieurs trucs qui me viennent, parce que ça c'est aussi, bon, on me la pose beaucoup moins cette question, mais ça a beaucoup été un peu une discussion d'apéro, de type, alors, qu'est-ce que t'as comme truc croustillant en ce moment, en séance ? Bon, la plupart du temps, c'est pas du tout croustillant comme on l'imagine, parce que les gens qui viennent, ils sont malheureux, ils sont en souffrance à plein d'endroits différents, enfin voilà, il y a quand même un truc...
Tu pleures parfois devant tes patients ?
Non, mais ça, j'ai failli. Mais ça, c'est des moments où je me dis, ok, il faut que je prenne des vacances, là.
Ouais.
Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai failli à des moments où on se disait au revoir parce qu'on terminait le suivi.
Eh oui.
Il y avait quand même, et il y en a certains auxquels je suis attachée quand même. Il y en a que je suis moins contente de voir revenir, mais avec qui quand même on travaille. Donc du coup, à partir du moment où je me sens, on va dire, honnête,
ouais, et utile quoi,
et thérapeutiquement et intellectuellement, je prends. Mais ouais, non, il y en a auxquels tu t'attaches. Puis il y en a des périodes, la période, le moment où j'étais enceinte, j'avortais tout ça, là, j'avais que ça en face de moi.
Ouais.
J'avais l'impression d'avoir quoi, soit que des meufs enceintes, soit des nanas qui avaient 40 ans et qui se demandaient ce qu'elles allaient faire. Donc il y avait un miroir quand même.
Oui, c'est ça.
Très très fort là-dessus, dans les moments de tergiversation de ma vie de couple aussi. Il y a pu avoir des trucs pareils assez marquants.
Mais est-ce qu'il y a des expériences des récits de gens qui ont fait écho très fortement chez toi ou un truc qui est là depuis 6-7 ans où t'as un souvenir ou deux où tu dis, ah ouais, ça a été un truc important dans ma carrière. Ou il y en a pas. Il peut ne pas y en avoir.
Le truc, c'est que il y en a plein qui me viennent. Il y a de l'anecdotique, par exemple, d'accompagner des pratiques sexuelles dites alternatives, comme la scatophilie ou ce genre de choses, qui sont quand même pas des choses très communes.
Ça, j'aimerais bien faire la scatophilie. Enfin, non, j'aime. Attends, attention.
faire un épisode
sur ça.
Ouais. C'est quand même très intéressant parce que ça te confronte à un tabou majeur, quand même.
Ouais.
Ça te confronte à tes limites aussi. Donc, ça a été quand même assez marquant parce que ça m'a demandé de me questionner un peu sur comment j'accueillais ce truc-là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en faisait? Comment j'accompagnais là-dedans? Et puis bon, le truc, c'est que moi, je suis quand même assez spécialisée dans les pratiques dites hard ou alternatives.
Ok.
Ou que j'appelle aussi exotiques, selon.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ce sont des sujets que je connais bien parce que je les ai beaucoup travaillés, que je m'y suis beaucoup intéressée, tout ce qui va être paraphilie, enfin voilà, toutes les pratiques un peu...
Paraphilie ?
Ce sont les pratiques sexuelles,
c'est
justement, qui sortent de la norme.
Ça veut dire, ça s'appelle paraphilie ?
Ouais.
Ok.
Considérant que la norme, encore une fois, c'est le coït pénétratif hétéro, donc on est quand même, vous voyez, sur une norme très très...
Oui, donc ça peut être du BDSM, plein de trucs.
Ça c'est tout ce qu'on appelle un peu pratique hard dans le jargon.
Ouais,
Parce que c'est hard un peu parfois pour le corps, il peut y avoir du traumatique juste pour les muqueuses, mais ça peut être source de plaisir, tout à fait consenti, enfin moi j'ai aucun souci avec ça, mais du coup c'est des sujets que j'ai beaucoup bossé. Parce que, avec cette conviction justement que les gens qui vivent ça, ils n'ont pas forcément trop d'endroits pour en parler parce que c'est très jugé, c'est très stigmatisé, tout le monde va avoir un avis là-dessus. Et que du coup, quand je peux accueillir ces paroles-là, moi ça me plaît assez, puis ça m'intéresse de travailler avec les personnes sur le cadre dans lequel ils peuvent vivre leur fantasme. Déjà, de faire la part des choses entre le fantasme et la réalité, qu'il y a peut-être des trucs qui peuvent se fantasmer, mais pas se vivre.
Une différence entre le fantasme et la réalité ?
Bah ouais, non.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Tu crois pas ?
Ah, moi je suis complètement d'accord avec toi.
Oui, moi je suis convaincue de ça, et justement je trouve que c'est très apaisant.
Faut pas réaliser ses fantasmes ?
Bah pas tous. Certains, pourquoi pas, bien sûr.
Ouais, enfin moi par exemple, tu vois, depuis toujours j'aimerais bien ken avec genre 6 mecs, je pense que je le ferais jamais.
Mais
je pense que j'ai pas très envie de le faire, tu vois.
Ouais, mais c'est...
Enfin 6 mecs, ça pète 8 ou 10.
Oui, voilà, finalement. Hein. Finalement, si on est dans le fantasme. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire... Il y a des choses qui m'excitent et qui me font envie, mais que je ne ferai pas.
Ouais.
Et c'est ok, en fait, il n'y a pas de problème.
Ah bah non, ça ne fait pas quelqu'un de toi de mauvais ou...
Et heureusement qu'on a... moi, je trouve ça hyper riche d'avoir une zone quand même fantasmatique un peu développée.
J'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit « j'ai plus de fantasmes » ou « j'ai pas de fantasmes ». J'ai des doutes là-dessus. Pour moi, on a toujours des fantasmes, c'est juste qu'on n'a peut-être pas forcément envie de les avouer aux gens ou de se les avouer à soi.
Le j'ai pas de fantasme, moi, c'est quand j'entends ça, ce qui m'arrive régulièrement aussi, j'ai un petit sentiment de, ah bon, le travail va être long parce que J'ai l'impression que ça signifie pas mal de... Tout est un peu fermé, on est barricadé là, dans une pensée où c'est pas accessible, parce que les fantasmes font peur. Ce qui peut être différent de ce que je suis. Moi, je peux avoir des fantasmes lesbiens, alors que pour le coup, bah, j'ai pas d'attirance pour les meufs, quoi. Enfin, mais je trouve ça intéressant de pouvoir accéder à de l'érotisme ou de la pornographie lesbienne, et que ça puisse m'exciter, d'avoir conscience de ça. Ouais. Mais par contre, de pas du tout avoir envie de le réaliser. Et
t'as jamais réalisé ça ?
Une fois. Ouais. Ouais, c'était vraiment pour l'expérience.
Ouais.
Et bah, j'ai bien aimé l'expérience, parce que j'étais consentante, consciente, dans un bon contexte, patati patata, voilà. Mais ça m'a pas du tout fait quelque chose de...
Et en même temps, tu vois, de se dire j'ai ces fantasmes-là qu'on va... Le truc, c'est qu'on émet vachement des jugements aussi sur nos propres regards. Enfin, moi, je sais qu'il y a des fantasmes que j'ai où je me dis, mais t'es malade. Vraiment, il y a des moments... Je pense qu'on a tous ça, hein, en nous, hein. Peut-être pas tous, tu vois, mais d'avoir un truc de... Oh putain, c'est too much, là,
parce que ça parle de notre référentiel normatif, justement. On y revient encore.
Et puis, c'est des trucs que j'ai pas envie... Enfin, je pense pas avoir envie de les faire, tu vois. Et puis, il y a des trucs que j'ai touchés du doigt où je fais « Ah !»
Intéressant.
Moi, par exemple, une fois, j'ai dominé un mec, tu vois. Mais parce qu'il m'avait demandé ça il y a des années. Et quand il m'avait demandé ça, je m'étais dit « Mais je sais, j'aurais jamais faire ça. » Et puis, comment... Puis, c'est ridicule. J'ai tellement kiffé parce que, justement, tu déconstruis complètement une pensée où c'est l'homme qui est dominant et la nana qui est soumise, tu vois, à ce truc-là. Bref. Mais
je suis en train de me rendre compte que je balance plein de trucs perso, hyper perso.
Ah bah, de toute façon, c'était un peu le but aussi.
Oui,
hein.
Bien sûr. C'était mais quand du même... coup, je suis là, attends, alors du coup, peut-être qu'il y a des gens que je vois en consulte qui vont me voir différemment sur mon petit fauteuil.
Peut-être.
Maintenant.
Ouais. Peut-être, mais bon, en même temps, t'as décidé de parler de toi aussi
mais
en
bien
séance.
Sûr. Mais c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que on est thérapeute, mais on est aussi humain. Après, c'est important que l'alliance thérapeutique, elle puisse se faire et tout soit au bon endroit.
Ouais. Mais je voulais justement te demander comment t'arrives à prendre soin de toi, de ton bien-être émotionnel en accompagnant les autres. Pour moi, c'est toujours une question. Alors là, pour le coup, que ce soit psy ou toi, sexologue, comment tu arrives à mettre une distance émotionnelle avec le patient, tu vois, et le...
Du coup, il y a deux questions, parce que pour moi, la question de prendre soin de moi et de mettre de la distance, c'est pas la même question.
Ok. Mais... Alors, réponds à ces deux questions.
La distance, pour le coup, c'est un truc qui est assez facile. Alors, je sais pas si c'est ma formation d'assistante sociale qui m'a beaucoup appris ça, si c'est le fait d'avoir bossé avec des gens très malades, si c'est... ça m'empêche pas d'être touchée, hein. Attention, je suis pas un petit caillou, mais généralement, si tu me vois à la fin d'une journée de consulte et que tu me dis, alors, t'as vu qui aujourd'hui et t'as eu quoi comme sujet? Ça me demande un gros effort de mémoire. C'est pas que j'ai oublié, parce que j'oublie pas, mais...
Tu prends des notes ?
Ouais, je prends des notes, par contre.
Ouais.
Indispensable. Okay. Mémoire défaillante de personne.
Mais tu prends des notes avec le patient devant ?
Oui.
Pas après ?
Non.
Ok.
Non, ça pareil, ça se pose au premier rendez-vous. Personne ne sourcille. Enfin, y a pas...
Okay.
Après, je gratte pas non plus comme... J'écris pas follement, mais je prends des notes indispensables, sinon j'y arrive pas après. Mais ouais, non, il y a un truc où je coupe assez facilement, quand même. Et puis... Je vois une psy.
Ouais.
Moi.
Depuis longtemps ?
Par épisode. Mais j'ai quand même mené, on va dire, un travail thérapeutique depuis mes 18 ans. J'ai commencé. Hein, donc, alors, il y a eu des moments où j'ai fait 18-20, puis après, j'ai fait 25-30. Enfin, tu vois, il y a eu des.
Avec la même ?
Non, non. Là, j'ai repris il n'y a pas si longtemps. Quelques mois avec une nouvelle personne. Je fais ça, je fais ce qu'on appelle de la supervision. Donc, tu peux parler des situations, justement, qui te posent problème avec une personne qui te supervise, d'une certaine manière, donc qui t'aide à réfléchir un peu sur comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est dans le cadre, enfin, voilà. Et de réfléchir aussi à ton approche quand tu te sens en difficulté, parce qu'il y a quand même des gens qui te mettent vraiment en difficulté. Et puis après, je fais aussi de l'intervision. Donc là, c'est pas hiérarchisé, donc c'est pas quelqu'un qui me supervise, on est 6 ou 7 sexologues, tous d'obédience différente, donc ça c'est quand même assez cool parce que il y a du médecin sexologue, infirmière sexologue, psy sexo et moi, et on discute donc de manière très horizontale de situations qui nous questionnent, qui nous posent problèmes, difficultés ou autres, et puis on réfléchit ensemble sur les situations.
Ah, c'est top ça.
Ouais.
Ok. Mais donc ça veut dire que toi, depuis que tu fais ce métier, il y a jamais un truc où tu te couches le soir? Tu dis, putain, ça, c'était chaud avec ce patient, quand même. Franchement, le pauvre, ça doit être dur. Oh là là, ça m'a touchée.
Si, je me le dis sur le coup, mais pas forcément le soir en me couchant. Je me dis sur le coup, bien sûr qu'il y a des gens qui me touchent, il y a des gens qui m'énervent, il y a des gens qui me génèrent un truc où c'est compliqué. Ah ouais. Beaucoup dans les couples, ça justement, où la dynamique à trois, elle est quand même pas simple du tout. Et je dois reconnaître que dans les couples hétéros, parfois, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça me génère bien sûr des émotions. Il y en a qui me touchent vachement, il y en a pour qui... je suis peinée, il y en a qui me font marrer. Enfin,
il y en a avec qui t'as envie d'être pote.
Ah bah ouais, carrément, ouais. Hein, franchement.
Il y en a avec qui t'es devenue pote?
Non.
En vrai, t'es devenue un pote, pas...
Non.
Un peu.
Non.
C'est vrai?
Ouais.
Ok. Je pensais que t'allais nous balancer un truc de...
Non, non.
Bon, j'avoue.
Il y en a avec qui... Il y en a que je recroise dans des événements justement un peu féministes, associatifs ou des choses comme ça. Donc il y a un peu de connivence, mais ça s'arrête là, franchement.
Ok.
Je mets une
petite limite.
Ouais, je suis sympa et on peut rigoler, mais je crois que, bon, là, voilà, j'aurais tout balancé sur ma vie, mais t'as plus aucun secret. Mais non, ouais, il y a quand même une distance. Ouais.
Tu perçois une évolution des mentalités et des conversations sur la sexualité depuis que tu fais ça?
Oui, je le perçois surtout sur des personnes assez jeunes qui viennent, beaucoup de personnes qui se définissent comme des femmes. Donc des jeunes femmes de 22, 24 ans, et qui viennent en disant « Voilà, moi je suis féministe, j'ai déconstruit plein de trucs, mais je voudrais faire un point un petit peu pour savoir où j'en suis dans ma sexualité, pour faire les bons choix, pour aller au bon endroit », qui n'étaient pas des questions qu'on avait forcément il y a quelques années quand même, sur « J'ai lu plein de choses, j'ai déconstruit plein de choses, je voudrais quand même m'assurer que tout est au clair pour moi et avoir un petit cadre d'exercice où je peux poser mes questions, même si elles paraissent un petit peu bêtes, je peux amener mes interrogations sur certains sujets et avoir un petit référentiel, quoi. »
Tu sais, c'est marrant, non, c'est toujours pas marrant, il y a toujours rien de marrant à ça, vraiment. Arrête avec cette expression, Juju. Il y a une personne qui m'avait dit un truc, quoi, sur Instagram, parce qu'à un moment, je parlais de sexualité, parce que j'en parle un petit peu, tu vois. Et il y a une personne qui m'a dit, moi, je suis féministe, mais j'adore être soumise.
Ouais.
Est-ce que c'est dérangeant? Et alors, je suis pas sexologue, moi, j'ai eu envie de lui dire absolument pas. Tu fais bien ce que tu veux, mais c'est surtout, je crois que ça répond à des schémas, encore une fois, tu vois.
Toujours empêtré là-dedans, quoi.
Toujours. Mais même moi, franchement, je vais pas vous miso. Moi, une petite claque sur les fesses et un petit truc, tu vois. Franchement, je kiffe. Pas toujours. Pas toujours. Il y a des moments où j'ai pas du tout envie de ça. Mais il y a des moments où j'aime ça et en même temps, je me dis, attends,
Ouais.
Et en même temps, pour moi, ça peut être aussi... ça peut se faire aussi, quoi. Ça peut s'inventer.
Je pense que la question essentielle, c'est dans quel cadre ça se fait, quoi. Est-ce qu'on est dans le jeu? Si c'est dans le jeu et qu'on est conscient de ce qu'on fait, je pense que tout est OK. Si finalement, tu te dis que tu... T'as pas... Enfin, tu vois, si t'es dans le truc de reproduire ce qui te semble être normal...
Moi, c'est ce que j'ai vécu toute ma life. Enfin, plus maintenant, mais c'est ce que j'ai vécu.
C'est ça qu'on peut interroger, justement, parce que ce qui va intéresser, c'est que tu puisses te dire bah ouais, j'aime bien être un peu soumise ou soumis au lit quand je le choisis, de temps en temps. J'en ai pas envie tout le temps. Déjà, ça, c'est quand même un truc aussi. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que t'as envie de faire ça à chaque rapport sexuel non plus.
Tout à fait.
Ça vaut pour absolument toutes les pratiques et toutes les mots, enfin, tout ce qu'on peut faire dans le sexe, quoi. Donc ça aussi, hein, t'es pas borné à toujours faire la même chose parce que t'as dit oui une fois, heureusement. Mais je crois que c'est important effectivement de déconstruire cette idée-là. Si t'as l'espace pour consentir à ça et que tu le fais un peu en pleine conscience, banco, quoi.
Je sais pas si ça va aider ce que je vais dire, mais je le partage parce que je l'ai déjà partagé sur Internet. Moi, j'ai beaucoup couché, j'ai eu beaucoup de relations... avec des garçons, plus d'une centaine, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, je couchais souvent avec des garçons que j'estimais beaux, parce que ça venait me flatter, parce que je me disais, quoi, moi, ils m'ont choisi. Et donc, en fait, je crois maintenant, j'arrive à le dire avec du recul, mais je couchais pas avec des mecs, c'est des mecs qui couchaient avec moi, tu vois, et je répondais à leurs désirs. Donc, je me mettais dans un truc de soumission et de
«
je suce », parce que c'est comme ça que... en fait, on va m'aimer. Je croyais, tu vois, qu'on allait m'aimer. Vraiment, ça me fait un peu sourire avec le recul. Mais donc, ma notion du plaisir et du désir, venir me faire jouir, bon, c'était même pas du tout une question. Enfin, tu vois. Et donc, j'étais complètement dans ce schéma, en effet, de soumission, de entre gros guillemets, excusez-moi pour la vulgarité, être un trou. Mais je ressentais pas ça sur le moment, hein, tu vois. Et maintenant, avec des années, voilà, ça fait 7 ans que je suis en couple avec quelqu'un qui me respecte beaucoup et avec qui on arrive à avoir de vrais échanges autour de tout ça, j'ai senti un avant-après.
Ouais.
Mais vraiment, où je me suis dit, waouh, putain, par quoi je suis passée pour... parce que je cherchais à m'aimer, en fait.
Ouais.
Et pour moi, là, elle est, c'est rejoint ce que tu dis, de, en fait, si t'as envie d'être dans un truc de soumission, mais parce que tu l'as décidé et parce que tu réponds pas au désir de l'autre, mais tu fais bien ce que tu veux, quoi.
Et moi, c'est ça la parole que j'ai envie de défendre.
Toi, je pourrais être sexologue, en fait.
Et voilà. Elle est bac, un petit diplôme en poche. Non, mais et je trouve que c'est important de transmettre ce truc-là.
Ouais.
Parce qu'on se met quand même beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et
puis, quelles injonctions on se fout en tant que meuf, quoi.
Ouais.
Tu vois, de répondre. Enfin, franchement, c'est, même si on en parle et qu'on déconstruit, honnêtement, le nombre de trucs qu'on se fout de, on doit répondre au désir des hommes. Et même si on dit, oui, non, mais t'as le droit de pas avoir envie, t'as le droit de pas coucher. Bah, il y a un truc latent, quoi, tu vois.
La question, c'est comment tu t'appropries tout ça ? Ton désir comme ton non-désir, d'ailleurs, ouais, ce dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, de pouvoir se dire, bon, ben, en ce moment, j'ai pas envie. Et c'est pas forcément ni problématique, ni grave, ni définitif. Et c'est aussi s'approprier son non-désir parce que c'est probablement un espace-temps pour faire autre chose.
Mmh.
On n'est pas êtres sexuels, sexués tout le temps, quoi.
Ouais. Et où, en tout cas, aller questionner ça, ça c'est... Justement, je crois que l'un des derniers... Enfin, en tout cas, l'un des derniers épisodes du podcast, j'ai fait un épisode avec mon mec où on répondait aux questions des gens. Parce qu'en fait, on a vécu une tromperie il y a des années et on a décidé de rester ensemble et de voilà, d'avancer. Et donc là, on faisait un épisode un peu différent. Et à un moment, il y a eu énormément de questions de la sexualité postpartum. Beaucoup, beaucoup de quid de la sexualité après un bébé. Et à un moment, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat et de dire, bah, en fait, moi, j'ai pas envie de baiser toutes les semaines, ça. Et j'ai fondu en larmes à un moment. Mais parce qu'en fait, je crois que ça le concernait même pas. Juste, je me disais, putain, mais par tous les trucs par lesquels je suis passée, tu vois, vraiment, j'ai tout ce que je te racontais avec les hommes, j'ai subi un viol, le poids, moi qui ai honte de certains trucs, tu vois, où la sexualité, genre, ça arrive tellement loin après, et que de le dire, d'aller le travailler, enfin, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire, enfin, c'est un peu un truc gnangnan de dire ça, mais...
Bah non, mais c'est vrai.
Mais je trouve ça vrai, quoi, tu vois, d'être honnête avec soi, et de se rendre compte qu'il y a une souffrance aussi, tu vois.
Bien sûr, ouais, et que c'est autorisé aussi, mais que du coup, peut-être la question, c'est à quel endroit on le remet pour que ça soit à peu près équilibré et apaisé.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça que j'ai pas encore.
Et peut-être que la réponse, c'est pas un binaire noir-blanc bien tranché.
Tous les dimanches, voilà. Non, c'est pas ça, ouais.
Peut-être que c'est considérer que ça peut revenir un peu par phase. Peut-être que c'est effectivement se dire, ok, là, en fait, j'ai envie d'y dédier peut-être plus de temps. Pas forcément à la pratique, mais ne serait-ce qu'à l'intérêt, à la réflexion,
pensée,
à la pensée, cette pratique. Parce que si tu la penses pas, ta sexualité, c'est compliqué d'avoir envie alors que t'as du taf, une vie de couple,
gosse,
une vie quotidienne, et 3000 autres trucs à penser à la minute. Donc en fait, il n'y a jamais de place pour la sexualité. Donc peut-être que la question des fois, enfin la réponse qui peut être apaisante, plutôt que de se dire j'ai réussi ou j'ai échoué, c'est de se dire... Peut-être que je peux réouvrir la petite fenêtre en haut, quoi.
Oui,
tu
c'est
vois.
Ça, c'est ça.
Podcast.
La liberté de la parole sur les réseaux sociaux, les émissions de radio, les podcasts, etc. Est-ce que ça a un impact sur ton travail et sur ton approche ou pas?
Alors oui, quand même, hein, puisque je trouve quand même pas mal de gens plutôt informés qui viennent me voir aussi, qui se sont déjà intéressés à toutes ces choses-là, qui ont lu, qui ont écouté des choses, etc. Donc ça c'est un constat que je fais quand même depuis quelques années. Après donc ça c'est plutôt l'impact positif, on va dire. Et puis le fait que du coup de parler de sexualité sur les réseaux sociaux, ça pousse peut-être, ça aide en tout cas les personnes à prendre rendez-vous peut-être un peu plus facilement, ou à se dire en fait c'est ok d'en parler, mes questions et mes souffrances elles sont pas illégitimes, je peux aller les travailler quelque part, il y a sûrement quelqu'un qui peut m'écouter et m'accompagner, enfin voilà. Donc ça, je trouve ça super.
Tu connais, je le place quand je peux le placer, le podcast On the Verge?
Oui. je le conseille souvent, d'ailleurs.
C'est une de mes meilleures potes.
Ah bah très bien.
Qui le tient.
Ouais, ouais. Bah tu vois, moi, je bosse avec des podcasts.
Évidemment.
J'aurais voulu le faire, j'aurais même pas réussi, quoi. Mais je conseille beaucoup de lectures et de podcasts à écouter, puisque je pense que la culture à la sexualité et à l'érotisme au sens très large, elle passe par là.
Elles peuvent venir de partout, quoi.
Voilà. Et qu'il faut ça en premier, presque. Et surtout pour s'apaiser un peu avec ce qui est si douloureux, qui te pousse à prendre rendez-vous, tu vois. Donc, oui, clairement, tout ce qui se passe au niveau médiatique, livre, documentaire et tout ça, hyper intéressant et hyper utile.
Mais
voilà. Après, le pendant de tout ça, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent conseillers, ouais. conseillères,
ouais, ouais.
qui racontent quand même parfois des trucs tout à fait... Attends, qu'est-ce que je peux trouver comme mot qui soit pas trop...
Border, limite.
Méga border.
Grave.
Ouais, qui peuvent être graves. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les MP, encore une fois, par exemple, ou dans les trucs
dans les
en
messages
off,
privés.
Dans les messages privés. Donc, moi, je suis quand même assez embêtée sur le fait que c'est pas juste cool de parler de sexualité, en fait. C'est pas juste fun de vouloir émanciper les pensées et de proposer... Enfin, il faut que tout le monde trouve sa place là-dedans, mais il faut permettre aussi aux gens en face de faire le tri.
Non, mais t'as raison, tout le monde s'improvise maintenant, voilà. Sexologue, médecin,
Parce qu'on
diététicien...
Peut être, voilà, on peut être conseiller en n'importe quoi. Comme je te disais tout à l'heure, sexologue, c'est déjà pas protégé comme titre, donc vraiment... Si tu fais une formation de 6 mois, tu peux être sexologue alors que t'as même jamais possiblement appris à nouer ce qu'on appelle une relation d'aide et à entrer en thérapie. Ce qui veut pas dire que tu serais pas bon, mais je pense pas qu'en 6 mois tu te formes à tout ça. Tu vois, moi, mon parcours il est hyper atypique et je me suis déjà sentie vachement illégitime dans ce que je faisais parce que j'étais pas médecin ou parce que j'étais pas psy notamment. Maintenant, je me dis que je suis quand même passée par plein d'étapes, que j'ai quand même beaucoup appris, beaucoup rencontré de gens, que je continue à apprendre. J'ai pas du tout la prétention d'avoir tout compris, mais que je suis en supervision, que si, que là. Enfin bref, je borde quand même pas mal mon truc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je trouve ça quand même assez dangereux parfois.
C'est pas le cas de tous les sexologues.
Ouais, déjà ça aussi, bien sûr. C'est pas le cas de tous les gens qui ont un titre ou une plaque, clairement. Et puis c'est pas le cas de tous ceux qui n'en ont pas et qui s'improvisent aussi professionnels. En donnant des conseils
tout à fait.
Professionnels.
Je ne peux être que d'accord avec toi. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui envisagent de poursuivre ou de commencer une carrière de sexologue en tenant compte des aspects enrichissants et parfois difficiles du métier?
Ben de bien se renseigner sur la formation initiale qu'ils vont choisir en fonction de ce à quoi ils peuvent prétendre déjà, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai fait une formation privée dans un premier temps et puis après j'ai fait un diplôme universitaire en santé sexuelle à Paris aussi.
Ça veut dire quoi en santé sexuelle?
Tu deviens conseiller en santé sexuelle via un cursus universitaire. C'est l'année un peu préliminaire au DIU de sexo.
D'accord.
Et ça veut dire que tu as une approche quand même assez large de tout ce qui peut avoir attrait à la santé sexuelle. La santé sexuelle, selon la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est le moment scolaire. Mais la santé sexuelle, ça ne parle pas que de l'absence des maladies. Ça parle aussi de pouvoir consentir librement à avoir une sexualité épanouie, plaisante, avec des partenaires qu'on choisit. Mmh. C'est ça, la santé sexuelle. Donc, c'est ne pas être malade, ne pas avoir d'infection sexuellement transmissible, pouvoir avoir accès à de l'information pour avoir des moyens de contraception. Mais c'est aussi pouvoir consentir, pouvoir avoir accès à des professionnels de santé de qualité qui nous accompagnent correctement, pouvoir poser des questions, pouvoir se cultiver autour de la sexualité, enfin c'est tout ça quoi. Et il y a la notion, enfin dans la définition de l'OMS, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a la notion de plaisir qui est abordée.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, mais c'est de tout ça dont ça parle, la santé sexuelle. Et, et oui, donc les conseils que je donne, que je donnerai, j'essaie de retracer parce que moi aussi je m'envole. Oui, donc c'est de bien choisir le diplôme, c'est de surtout pas rester tout seul dans son petit coin, mais de s'investir soit dans des réseaux associatifs, militants, où on fait de la prévention, où on va vers, on appelle ça l'aller vers, c'est hyper intéressant. Devenez bénévole, même si c'est que 6 mois ou 1 an, chez Aide, chez Solidarité Sida, ou dans d'autres assos quand même qui vont vous faire un petit peu plus toucher des publics hyper différents. Moi, j'ai fait de la prévention de rue, où on allait dans des teufs ou dans des bars gays, justement, pour discuter avec les gens. On apprend sur le terrain quand même vachement. Donc, mon conseil, ça serait choisir votre formation, faire des choses à côté, s'investir dans le réseau, s'intéresser, rencontrer des gens, envoyer des mails. Moi, je reçois souvent des mails de gens qui me disent « C'est quoi ton parcours? Comment t'as fait? Est-ce qu'on peut s'appeler pour
et
en parler ?»
Et tu réponds
la plupart du temps. Non, franchement, j'essaye parce que j'ai le souvenir quand même assez...
Et qu'on te l'a fait aussi.
Ouais, et que j'étais quand même trop contente d'avoir des réponses et que ça m'a aidée au final. Et puis après, ça c'est très personnel comme conseil, mais quand même, je le donne aussi. Moi, je trouve que c'est... très chouette d'avoir une activité institutionnelle et privée.
Ouais.
Donc d'avoir
les deux.
Ouais. D'avoir du public parce que tu bosses en équipe.
Ouais.
Que tu peux quand même t'interroger sur ce que tu fais avec d'autres gens et d'autres professionnels. Ouais. Donc de bosser en équipe pluridisciplinaire, quand même, c'est plutôt cool et c'est riche. Et puis t'es dans une machine un peu institutionnelle, donc c'est, que ça soit associatif ou comme moi l'hôpital, enfin peu importe, mais en tout cas de travailler avec des gens.
Oui, et puis en plus l'un nourrit l'autre aussi, quoi.
Donc le mélange, l'alliage des deux, il me semble que c'est aussi une sécurité pour pas faire n'importe quoi dans l'enceinte de ton cabinet.
Ouais. Bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode.
Oui.
Merci beaucoup, Claire. De t'être prêté au jeu. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais dire en plus, que t'as pas dit?
Ouais, peut-être on l'a un petit peu dit, mais je vais peut-être le synthétiser. Mais c'est de pas hésiter à venir consulter, même si vous allez peut-être vous dire que je prêche pour ma paroisse. Mais je trouve que c'est important de dédramatiser le fait de prendre rendez-vous, que ça peut permettre à plein de personnes de déculpabiliser très rapidement des choses qui peuvent devenir plus graves après. Ça m'arrive souvent d'avoir des jeunes qui me disent « Ah là là, vous vous rendez compte, on en est déjà là ?» Et moi, je leur réponds plutôt que c'est super de venir, en fait, parce que sûrement que c'est le meilleur moyen, si on arrive à bien travailler ensemble, de pas s'enfermer dans un truc qui est pas fonctionnel et qui fait pas du bien. Et de repérer d'entrée que, en fait, ils ont des ressources, que ça va aller, qu'il s'agit parfois de 2-3 séances. Enfin, on n'a pas besoin
C'est ça.
Voilà.
Oui, c'est parce que souvent les gens pensent que le travail va être très long et rude et que parfois en fait quelques séances peuvent suffire, quoi.
Plus t'attends, plus ça peut être long et rude quand même aussi. Mais parfois t'attends aussi parce que c'est pas le moment pour toi avant. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être de décomplexer le fait de se dire on va voir un ou une sexologue. C'est pas du tout honteux, c'est pas du tout grave. Ça peut être par contre très utile et ça peut vraiment aider parce que on se trimballe quand même des souffrances. Parfois extrêmement forte, liée à l'intimité. Et c'est dommage vraiment d'être tout seul avec ça, quoi.
Moi, pour conclure, je pense que, en fait, c'est important. T'as dit le mot enfermé. Et en fait, je crois que c'est ça parce qu'on s'enferme vachement avec nos croyances et on s'enferme vachement seul, au final, dans la sexualité ou d'autres sujets. Et qu'en fait, il n'y a aucune honte à aller voir un psy, un sexologue, un gynéco, peu importe quoi, en fait, au final. Mais d'arrêter d'être seul avec ses croyances, non, mais de toute façon, c'est comme ça, d'être un peu fataliste, ça libère. Toi, l'hôpital, du coup, c'est remboursé par la sécurité sociale?
Alors, c'est pris en charge.
C'est pris en charge.
Mais par contre, ça ne peut être adressé qu'aux personnes qui sont suivies dans le service.
Ok.
Sinon, je ne pourrais pas tout absorber.
Et en libéral, non.
En libéral, c'est pas pris en charge. Ça serait très cool que ça le soit un peu plus. Alors, pour certaines mutuelles, un peu comme certaines consultations psy, t'as un petit forfait, tu vois. Mais bon, c'est quoi? C'est 40 ou 50 balles, 3 fois par an. C'est toujours mieux que rien.
Mais
c'est vrai que la santé mentale et le bien-être à cet endroit-là, il gagnerait à être mieux pris en charge.
Ouais, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. Et c'était hyper enrichissant. Je pense que ça a fait du bien à beaucoup de monde et ça a déculpabilisé aussi pas mal de pensées. En tout cas, je pense que si vous arrivez à la fin de cet épisode et que vous êtes toujours là, c'est que peut-être que quelque part, peut-être, vous avez envie d'aller travailler sur vous aussi à travers avec un ou une sexologue. Donc, n'hésitez pas. Merci encore une fois, Claire, pour ta venue.
Mais merci de ton écoute et puis merci d'avoir été aussi intéressée de nous donner un peu la parole sur ce qu'on fait, comment, enfin, même si c'est la mienne, mais c'était très cool pour moi de pouvoir un peu raconter un peu plus ce que je vis dans ma pratique et du coup un peu dans ma vie aussi.
Ouais, c'était le but. C'est vraiment le but. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Salut. Podcast.